Romains 6, donc versets 1 à 14, je lis à partir du verset 1. Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Quels ont été les jours les plus importants de votre vie ? Alors pour Marguerite, sans doute que ce 8 juillet 2018 en fera partie. Pour ma part, je pense effectivement au jour de mon baptême, mon mariage, la naissance de chacun de mes enfants. Et tous ici pourraient témoigner de jours qui sortent du lot, alors souvent en bien. Parfois, bien sûr, il y a aussi des jours difficiles qui ont marqué notre vie. Le texte de ce matin nous amène à dire, pour nous qui sommes chrétiens, que les deux jours les plus importants de notre vie sont ce vendredi, il y a près de 2000 ans, quand Jésus est mort sur la croix, et son surlendemain, le dimanche de Pâques. Alors, on me dirait peut-être que je joue un peu sur les mots. Pas si sûr. Parce que précisément, l'idée centrale de cette première partie du chapitre 6 de la lettre aux Romains, c'est que si nous avons reconnu en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, notre vie est désormais liée à la sienne de manière indissociable. Son histoire devient la nôtre. Son histoire devient la nôtre. Et on va essayer de tirer cela au clair, mais il convient de rétablir un peu le contexte. L'apôtre Paul a passé les premiers chapitres de cette lettre à montrer combien la venue de Jésus, sa mort sur la croix, sa résurrection sont une bonne nouvelle. Pour la plupart, je ne vous apprends rien en disant que notre mot « évangile » vient de cette expression « bonne nouvelle ». Bonne nouvelle pour des hommes et des femmes pécheurs, égarés loin de Dieu, qui ont désespérément besoin de cette bonne nouvelle. Et à la fin du chapitre 5, donc qui précède notre texte, l'apôtre Paul affirme que là où la faute des hommes a abondé, la grâce de Dieu, c'est-à-dire sa faveur imméritée, surabonde, va encore plus loin que là où la faute est allée. La bonté et le pardon de Dieu accomplis par le sacrifice de Jésus effacent notre culpabilité, mais vont même au-delà. Nous sommes aujourd'hui parfaitement et définitivement accueillis par Dieu et comblés par lui. Alors ce sont des paroles puissantes de l'apôtre Paul, mais controversées. Et Paul sait que ce message peut être facilement caricaturé et détourné. Et certains pourraient se dire que, eh bien, puisque Dieu a décidé de pardonner, autant se lâcher. Autant faire ce qu'on veut, et à la limite, on fera ressortir encore plus magnifiquement le pardon et la grâce de Dieu. Version peut-être un peu plus subtile de cela, puisque nous sommes sauvés par grâce. Après tout, hein, c'est pas bien grave si on ne fait pas ce que le Seigneur demande dans sa parole. De toute façon, il fait grâce. Pas de souci. Et c'est exactement l'objection que Paul anticipe, et sans doute qu'on lui avait déjà faite, au verset 1. Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? L'évangile serait-il trop facile ? C'est notre question clé ce matin. L'évangile serait-il trop facile? Et la réponse que l'apôtre apporte peut être résumée dans cette petite phrase qu'il nous donne au verset 11. « Considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Mort pour le péché, vivant pour Dieu. Ce seront les deux temps de notre réflexion. Pas la peine de réinventer la boucle. Mort pour le péché, premièrement. Deuxièmement, vivant pour Dieu. Dans un premier temps, donc, nous sommes morts pour le péché. On a déjà vu la question que Paul soulève au verset 1. Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Et il faut reconnaître que Paul ne nous laisse pas beaucoup de suspense sur cette question. Il aurait pu laisser traîner, hein, vous verrez à la fin du chapitre 8, non? Il répond tout de suite à sa propre question au verset 2, certainement pas, certainement pas. Et c'est une traduction un peu douce, le sens de l'expression utilisée par Paul dans le texte original serait plutôt hors de question, jamais de la vie. Donc Paul affiche clairement la couleur. Si on pense que la grâce de Dieu, ça va nous donner une excuse pour vivre comme bon nous semble, c'est qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris du message de Jésus et on n'a rien compris de l'évangile. Et il explique pourquoi dès le verset 2. Et là, c'est quelque part la phrase clé de ce texte. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre pour le péché, dans le péché? On a ici l'argument clé de Paul. Nous sommes morts pour le péché, et donc nous ne pouvons pas vivre pour le péché. En surface, on comprend la logique. Si vous allez voir un monument aux morts, avec écrit dans l'inscription « Mort pour la patrie », vous n'allez pas vous dire « Ah, il faudrait qu'on recrute ces gens-là pour aller vivre, pour se battre pour la patrie ». Ce n'est pas possible, ils sont morts pour la patrie, ils ne peuvent pas aujourd'hui vivre pour la patrie. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire « mourir pour le péché » ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Dans les traductions un peu plus anciennes, mourir au péché. Mais mourir pour le péché est fidèle, je crois, au sens et plus parlant. Bien, Paul va nous l'expliquer dans les versets suivants. Le texte, il faut le reconnaître, n'est pas très facile à première lecture, ces 14 versets. Mais derrière l'argumentation un peu dense de Paul, il y a une vérité puissante et précieuse. Et j'espère que nous pourrons bien la saisir ce matin et que ça fera écho aussi à ce que nous avons déjà entendu de Marguerite qui a donné la parfaite introduction tout à l'heure à ce message. Paul vient de dire donc que nous sommes morts pour le péché. Et à partir du verset 3, il commence à expliquer ce qu'il veut dire par là. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui. On s'arrêtera là pour le moment. Que nous dit Paul ? D'abord, il s'adresse à des gens qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ et du Père, du Fils, du Saint-Esprit, des hommes et des femmes qui ont confessé publiquement leur foi en lui, comme l'a fait Marguerite tout à l'heure. Et il veut leur faire comprendre, à ces chrétiens qui ont confessé leur foi, ce que leur baptême a voulu dire, au cas où ils l'auraient perdu de vue. Et il leur dit, c'est en sa mort, la mort de Jésus, que nous avons été baptisés. Alors, ça peut toujours paraître un peu mystérieux. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Pas comme ça qu'on parle tous les jours. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Paul va développer au verset 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Marguerite, je ne sais pas si ça te parle, ton vieil homme. C'est tout simplement l'ancienne personne que j'étais avant de donner ma vie à Jésus. L'ancienne personne que j'étais avant de donner ma vie à Jésus. Se faire baptiser, explique Paul, c'est reconnaître que Jésus est mort sur la croix pour moi, il a pris mes péchés sur lui à ma place et il en a payé le prix. Et par conséquent, c'est comme si le vieil homme, l'ancien moi, avait été crucifié avec Jésus. C'est moi qui aurais dû aller à la croix, c'est moi qui aurais dû subir le jugement et la condamnation de Dieu à cause de ma rébellion contre lui. Parole difficile à entendre aujourd'hui, je le sais bien. Mais c'est ce que nous dit la Bible. Nous méritions tous la condamnation de Dieu. Mais Jésus y est allé pour moi, pour nous, en assumant ma situation d'homme pécheur. Et c'est pour ça que Paul peut dire que c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Sans la mort de Jésus, le baptême n'a absolument aucun sens. Et l'apôtre montre ici l'importance de la symbolique du baptême et de la symbolique de l'immersion dans l'eau. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui. Pourquoi est-ce que Paul ne dit pas mort? Je me suis longtemps demandé ça. Il dit vie, on ressuscite avec lui, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas on est mort avec lui? Il dit on a été enseveli avec lui. Je pense que c'est précisément parce qu'il pense à l'image. Il pense au geste, au fait d'aller dans l'eau. Et donc ça évoque pour lui l'ensevelissement. Nous avons été ensevelis avec lui afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Lorsque le baptisé ou la baptisée est plongée dans l'eau, il, elle, on va dire elle ce matin, est comme ensevelie. Elle a suivi Jésus-Christ dans sa mort. Et lorsqu'elle sort de l'eau, elle est comme ressuscitée, symboliquement bien sûr. Elle suit Jésus-Christ dans sa vie nouvelle de résurrection. Certains pourraient se demander pourquoi Paul insiste autant ici sur le baptême en tant que tel. Est-ce qu'il sous-entendrait, comme le pensent certains, que c'est au moment précis du baptême que un truc se passe, si vous me passez l'expression, et que là, ça y est, Dieu nous pardonne et il nous donne une vie nouvelle parce qu'on est descendu dans l'eau. Et il me semble que si on n'avait que ce texte, on pourrait éventuellement penser cela. Cela dit, on a les 5 chapitres précédents de la lettre aux Romains, entre autres, sans parler du reste de la Bible, qui nous disent que c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on reçoit le salut de Dieu. C'est par la foi, en plaçant notre confiance en ce que Dieu a fait pour nous en Jésus, en lui confiant notre vie. Ce n'est pas le fait d'être plongé dans l'eau en tant que tel qui peut nous apporter la grâce de Dieu. Mais si Paul semble quasiment fusionner la conversion et le baptême ici, c'est que pour lui, il va de soi, et là je voudrais insister, parce que je pense que ça peut en concerner quelques-uns. Je vous assure, je n'ai pas de nom particulier en tête, mais je sais que ça peut en concerner quelques-uns. Il va de soi que lorsqu'on devient chrétien, on se fait baptiser. Paul ne se pose même pas la question. Lors d'un mariage civil, le couple commence par se dire oui, échanger les consentements, et ensuite les deux conjoints signent le registre de mariage qui officialise l'acte. Eh bien, pour l'apôtre Paul, devenir chrétien sans se faire baptiser, ce serait un peu comme se dire oui, mais sortir de la salle sans avoir signé. L'analogie n'est pas parfaite. Mais dans tout le Nouveau Testament, en réalité, il y a une association si étroite entre la conversion du cœur, ce que, tel que dans cette Église nous le comprenons en tout cas, ce que la Bible appelle le baptême du Saint-Esprit, la conversion du cœur. Il y a une association tellement étroite entre cette conversion spirituelle et le baptême de l'eau qu'on n'imagine pas les séparer. Et ça doit nous faire réfléchir si certains parmi nous sont chrétiens de longue date, mais hésitent encore à se faire baptiser. Le baptême n'est pas une étape de la vie chrétienne, ce n'est pas une étape de maturité. Ça y est, je suis suffisamment mûr dans ma relation avec Jésus, maintenant je peux me faire baptiser. Ce n'est pas ça. C'est le point de départ. Et tant que nous sommes ici-bas, il n'est pas trop tard pour répondre à cet appel, à suivre ce commandement de Jésus et à passer par l'eau du baptême. Et n'hésitez pas à venir m'en parler, en parler à Paul, à l'un des anciens, nous serons heureux d'en parler avec vous. Mais je reviens à la question clé posée tout à l'heure. Que veut dire mourir pour le péché ? C'est pas si simple. Il y a une interprétation assez courante de ces versets qui dit ceci. De même qu'un mort ne peut plus rien ressentir, eh bien le chrétien qui est mort pour le péché est devenu comme insensible au péché. Il y a un groupe de rock chrétien que j'écoutais quand j'étais ado et ils avaient même une chanson, un groupe américain, ils avaient une chanson qui s'appelait « Comme un zombie » en référence à ce verset. Alors on est mort pour le péché ne peut plus rien nous faire. Et l'idée étant donc que face au péché, nous serions devenus comme morts, inatteignables. À première vue, le verset 14 semblerait aller dans ce sens. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, verset 14. Mais cette interprétation pose beaucoup de problèmes. Notons d'abord que le texte original utilise le verbe mourir, le verbe mourir, et non pas le nom, le substantif mort. Donc, parce qu'en français, on n'entend pas la différence. Mais l'idée n'est pas que nous sommes des morts face au péché, que nous sommes comme des morts face au péché, mais que nous sommes morts, le verbe, nous avons péri face au péché, nous sommes passés par la mort. Ensuite, on constate que cette interprétation courante est en porte-à-faux avec notre expérience. Quel chrétien pourrait dire qu'il est insensible dans l'expérience inatteignable dans son expérience aux tentations et aux péchés. Si c'est votre cas, venez m'en parler, je serais heureux de savoir comment vous faites. Mais si c'est le cas, et si c'est le cas, s'il s'agit de dire que maintenant, le péché ne peut absolument plus nous atteindre et ne peut plus nous tenter et qu'on n'est plus du tout susceptible à son effet sur nous, pourquoi est-ce que Paul prend la peine d'écrire ce texte ? Pour exhorter les chrétiens à se détourner du péché. Mais surtout, ça ne correspond pas à la logique du texte. Et là, les versets clés sont les versets 10 et 11. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché. Et là, on voit que cette expression « mort pour le péché », Paul l'utilise avant tout à propos de Jésus. Et c'est en Jésus et par lui que nous sommes morts pour le péché. Or, que veut dire Paul quand il dit que Jésus est mort pour le péché ? Il ne veut pas dire que Jésus est devenu comme un mort face à la tentation ou je ne sais quoi. Ça n'a pas de sens. Non, Paul redit ici ce qu'il a déjà affirmé à bien des reprises et qui est le message qui résonne tout au long de cette lettre aux Romains. Jésus est mort pour payer le prix du péché, pour en subir la peine à notre place. Dès le chapitre 3 de la Genèse, on apprend, et Marguerite l'a dit dans son témoignage, que la conséquence du péché, c'est la mort. Non seulement la mort physique, mais la mort spirituelle, la rupture de notre relation avec Dieu. Et c'est précisément ce que Paul rappelle en conclusion de ce chapitre, c'est pas dans le texte que j'ai lu, au verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Alors que nous dit Paul ? Il nous dit que nous sommes morts pour le péché au sens où nous sommes associés à la mort de Jésus pour le péché. Sur la croix, le jugement de Dieu contre moi, homme pécheur, est tombé. Jésus m'a représenté devant la justice de Dieu et par conséquent, en lui, je suis mort pour le péché. C'est-à-dire que ma peine est purgée. Et voilà pourquoi le péché n'a plus de pouvoir sur moi, verset 14. Ce n'est pas au sens de l'expérience. Ce n'est pas que dans mon expérience, le péché n'a aucun pouvoir sur moi. Mais c'est que le péché n'a plus de pouvoir accusateur. Le péché ne pourra plus jamais me condamner aux yeux de Dieu. Si quelqu'un paye une dette à votre place, même si le paiement n'est pas venu de vous, le créancier est satisfait. La dette est payée. Et on ne va pas vous réclamer cette dette. Elle a été payée, même si ce n'était pas par vous. C'est ce que Paul nous dit ici à propos de Jésus. Nous sommes morts pour le péché. Le péché ne peut plus nous accuser devant Dieu parce que Jésus a pris la condamnation à notre place. Voilà l'évangile. Voilà la bonne nouvelle. Est-ce que nous prenons bien conscience de l'ampleur de ce que nous dit Paul ? L'homme que j'étais auparavant, l'ancien Matthieu, celui qui était coupable aux yeux de Dieu, pécheur et condamné, est mort avec Jésus sur la croix. Symboliquement parlant, bien sûr. Mais la réalité aux yeux de Dieu est là. Mort avec Jésus sur la croix. La sentence est passée. Dieu ne me regardera plus jamais comme un coupable qui mérite son jugement. Alors si l'ancien moi est mort avec Jésus sur la croix, qu'en est-il du nouveau moi ? Qu'en est-il de celui que je suis aujourd'hui ? Eh bien c'est là que Paul va poursuivre l'image du baptême et affirmer que de même que Jésus est mort pour nous, il est aussi ressuscité pour nous. Et donc nous pouvons vivre une vie nouvelle avec lui. C'est notre deuxième temps de réflexion qui sera plus bref. Vivant pour Dieu. Vivant pour Dieu. Beaucoup ont sans doute déjà vu ces films ou séries dans lesquels un témoin clé lors d'un procès bénéficie d'un changement complet d'identité pour être protégé des représailles qui pourraient lui arriver à cause de son témoignage, dans des histoires de mafia, etc. souvent. En échange de son témoignage, le gouvernement, donc, alors c'est un procédé qui existe depuis longtemps aux États-Unis, et je crois avoir appris que depuis les attentats de 2015, un procédé similaire a été commencé en France. Mais donc, en échange de son témoignage, le gouvernement donne au témoin protégé un nouveau nom, un nouveau passeport, le place dans une nouvelle région, avec une nouvelle profession, etc. L'ancienne identité est tout simplement détruite, comme si cette personne était morte. Alors c'est un procédé drastique qui oblige la personne à couper les ponts avec son passé, mais qui lui permet un nouveau départ, qui lui permet une nouvelle vie. Une fois de plus, bien sûr, l'analogie est loin d'être parfaite. Mais c'est un peu ce que nous dit l'apôtre Paul dans ce texte. Nous sommes passés par une mort, et donc nous sommes invités maintenant à vivre une autre vie, une vie nouvelle, verset 4. Et pour en parler, Paul revient à l'image, enfin nous ramène à l'image du baptême. Le baptême renvoie à la mort de Jésus, à notre mort avec lui, Mais le baptême, vous aurez remarqué que je n'ai pas laissé Marguerite dans l'eau. Très peu de temps en tout cas. Le baptême nous rappelle non seulement cela, mais aussi que Jésus n'est pas resté mort. Il est sorti du tombeau au troisième jour. Alors ce matin, nous n'avons pas l'occasion de parler longuement de la résurrection de Jésus. Mais ce texte, parmi d'autres, nous montre que la croix et la résurrection sont indissociables. Dans l'évangile, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre dans un sens. Les deux vont ensemble. Ce sont les deux piliers de notre espérance, la croix, la résurrection. Si Jésus était resté mort, c'est le péché et la mort qui auraient eu le dernier mot. Et quelle espérance pourrions-nous avoir? Si je déclare par la foi que j'ai confié ma vie à Jésus, mais qu'en fait il est mort depuis 2000 ans, alors ça ne veut rien dire, j'ai aucune autre perspective que la mort. Et Jésus, dans ce cas-là, n'est qu'une référence historique, éventuellement une source d'inspiration. Mais, rappelle Paul, la mort n'est pas la fin de l'histoire, ni pour Jésus, ni pour nous. Versets 4 et 5, « Nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Alors quand Paul parle ici d'une résurrection semblable à celle de Jésus, il se trouve qu'il, avec de nombreux commentateurs, je pense qu'ici il ne parle pas de notre résurrection corporelle à la fin des temps, dont il parlera plus tard, chapitre 8 notamment. Mais ici, ce qu'il nous dit, c'est que de même que spirituellement parlant, nous sommes morts avec Jésus sur la croix, eh bien spirituellement parlant, nous sommes ressuscités avec lui. Il y a désormais un nouveau moi, une nouvelle Marguerite, un nouveau, rajoutez votre nom si vous avez cru en Christ, dont la vie est associée à Jésus-Christ ressuscité. Maintenant, pourquoi est-ce que Paul écrit tout ça? Eh bien, c'est là qu'il faut revenir à la question de départ. Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas, versets 1 et 2. Pourquoi est-ce que c'est impensable de continuer à pécher avec insouciance et de prendre à la légère la grâce de Dieu? Et c'est important comme question. Autrement dit, quelle est notre motivation et quelle est la raison que nous avons profondément pour faire le bien et pour agir d'une manière qui plaît à Dieu? Parce que, nous dit Paul, cette vie-là, vécue dans la rébellion contre Dieu, vécue dans le péché, cette vie-là est terminée. Nous ne sommes plus cette personne. Et donc le péché est hors sujet, totalement incohérent pour celui qui a été déclaré juste grâce à la mort de Jésus et qui vit aujourd'hui une vie nouvelle par la foi en Jésus et grâce au Saint-Esprit. Dans le film Les Évadés, un grand classique, l'un des deux héros est enfin libéré après plusieurs décennies. Et il y a un programme de réinsertion et donc on l'aide à trouver un logement, un job dans un supermarché. Un monsieur donc d'un certain âge, il a passé plusieurs décennies en prison. Et au début, c'est très difficile pour lui de s'adapter à cette nouvelle liberté. Il est tellement plus habitué. Il vit dans un petit appartement mis à disposition pour lui, un peu comme s'il était encore dans sa cellule. Il y a une scène amusante où son nouveau patron lui dit que « Non, c'est pas la peine de me demander la permission pour aller aux toilettes. Tu peux y aller. » L'homme était libre et pourtant il continuait à vivre comme s'il était encore prisonnier. Pour l'apôtre Paul, continuer à vivre dans le péché alors que l'ancien moi est mort avec Jésus sur la croix, c'est incompréhensible. Nous pouvons le faire concrètement, et trop souvent nous le faisons, et moi le premier. Trop souvent nous ne sommes pas en cohérence. Mais c'est incompréhensible. Et c'est se priver de la liberté magnifique que Dieu nous offre, une vie dans laquelle nous pouvons, par la puissance qu'il nous donne, par le Saint-Esprit, nous détourner du mal et grandir dans la connaissance et l'amour de notre Créateur. Alors comment réagir à ces mots de l'apôtre? D'abord, si nous avons reconnu en Jésus notre Seigneur et Sauveur, et si nous sommes passés par l'eau du baptême, ça doit nous faire sérieusement réfléchir. Et c'est le cas, sans doute, de la majorité d'entre nous. Nous avons reconnu en Christ notre Sauveur et Seigneur, nous sommes passés par le baptême. Est-ce que nous prenons bien conscience de ce qu'a signifié notre baptême? Ou est-ce que nous tolérons le péché comme une réalité acceptable de notre vie? Et je voudrais rappeler ici que vivre dans le péché, dans la pensée biblique, c'est pas forcément vivre dans la débauche. C'est pas forcément passer son temps à faire du mal aux autres. Souvent, le péché est bien plus subtil et se passe derrière des apparences très respectables. le simple fait de ne pas reconnaître l'autorité de Dieu sur notre vie, ou de s'éloigner de ce qu'enseigne sa parole, c'est le cœur même du péché. Le simple fait, nous a dit Paul au chapitre 27, lettre, de ne pas le reconnaître, Dieu, comme créateur, de ne pas lui rendre gloire pour ce qu'il est, de ne pas lui donner notre vie parce qu'il est qui il est, c'est déjà le cœur même du péché. Et bien sûr, ça prend mille et une formes dans notre vie. Alors si nous nous sommes laissés aller à prendre le péché à la légère, si nous sommes tentés de continuer à gérer nos vies sans Dieu, ou peut-être qu'après un temps où nous avons vécu vraiment dans la joie de la foi en Dieu, en Christ, passe par un temps plus difficile, c'est plus poussif, et petit à petit, on est tenté de reprendre un peu le contrôle de notre vie. Dire, bon, les priorités de Dieu, c'est sympa, mais je vais quand même refixer les miennes parce que je les maîtrise un petit peu mieux. Si c'est notre cas, eh bien Dieu nous appelle ce matin à prendre conscience que cette vie-là, elle est terminée. Nous sommes hors sujet. Oui, c'est bien à une prise de conscience que le texte nous invite. Considérez-vous comme mort pour le péché et vivant pour Dieu. Verset 14. Ainsi, il y a dans ce texte à la fois une magnifique bonne nouvelle. Si nous avions confié notre vie, si nous avons confié notre vie à Jésus-Christ, nous ne serons plus jamais condamnés. Parce que Jésus n'a pas payé une partie de notre dette. Ou il n'a pas juste payé les dettes passées et puis il nous laisse nous débrouiller pour la suite. Il a tout payé. C'est le sens de ses paroles sur la croix. Tout est accompli. Nous ne serons plus jamais condamnés si nous avons confié notre vie à Jésus-Christ. Mais il y a aussi un défi qui nous est lancé et que nous ne pouvons pas ignorer. Si nous avons placé notre foi en Jésus, si nous l'avons déclaré publiquement par le baptême, il est impensable que nous continuions à vivre dans le péché. C'est-à-dire simplement une vie qui ne suit pas les priorités de Dieu, mais qui suit les nôtres, ou peut-être un domaine de notre vie où nous ne suivons pas la volonté de Dieu, mais nous suivons nos propres priorités. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'occasion de lui confesser nos péchés et de lui redire notre détermination à être qui nous sommes, à vivre en cohérence avec cette nouvelle identité. Maintenant, pour ceux parmi nous ce matin qui n'ont pas encore confié leur vie à Jésus, j'espère que ce texte, pas très facile, j'en conviens, a pu vous laisser voir que le christianisme, que la foi en Jésus, n'est pas un ensemble de valeurs ni un ensemble de dogmes, c'est un changement radical de la vie par lequel nous accueillons ce que Dieu a fait pour nous et nous nous laissons transformer pour toujours. Jésus nous invite à vivre une histoire nouvelle, une vie nouvelle avec lui. Amen.